la sta a Milano.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Gate Kakawe, c'est le moment de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. La tranche des informations qui ont marqué cette semaine. La présentation, vous serez avec Joséphine Tontengondimana. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal des journaux. 10 militaires burundais tués, 25 blessés, 5 autres portés disparus. Voilà le bilan de l'attaque de la position de Selbaraf dans la région du Moyen Chabel, à plus de 130 km de Mogadiscio en Somalie. C'est un bilan donné par l'état-major général de l'armée burundaise ce mercredi. 20 terroristes ont été également tués dans cette attaque du côté des Al-Shabaab. Nos sources sur place en Somalie nous disent que le bilan des dégâts humains du côté des militaires burundais serait plus lourd. Et puis, 13 prisonniers poursuivis dans l'attaque du camp militaire de Mukoni en province Muyinga en 2017 dénoncent la lenteur du dossier en appel de pourvoi en cassation dans la Cour suprême depuis plus de 4 ans. Ils demandent à la Cour suprême de se prononcer pour qu'ils ne continuent pas de croupir en prison. Plus de détails avec Jean-Marie Ndabashinze.
Parmi ces 13 prisonniers, 4 sont des anciens militaires, un ancien policier et 8 déplacés des sites de Mutaho, de la commune Mutaho et Gihamagara de la commune Itaba de la province Gitega. Ils ont fait appel de pourvoi en cassation à la Cour suprême par rapport au jugement rendu par la Cour d'appel de Ngozi en février 2018. Quand les avocats vont demander au greffier de la Cour suprême où se trouverait le dossier, la réponse est toujours que le dossier est incomplet. À la demande des pièces qui manquent, le greffe les informe des pièces qui manquent, y compris ce qu'ils ont fourni très récemment. Les prisonniers qui sont concernés par ce dossier sont Arkad Arkadza, Aster Niongere, Eric Habimana, Ferdinand Naumvukie, Ferdinand Harimana, Ildefonse Nimubona, Fulgence Ndaikengurukie, Athanase Niyonkuru, Dismas Ndaisenga, Innocent Ndereyimana, Ezekiel Habyarimana, Eric Habimana, Philbert Ndwayezu et Victor Nzojiobiri. Ces 13 ont le même dossier et 8 autres ont un autre dossier à part. Mais ils sont tous accusés d'avoir participé dans l'attaque du camp militaire de Mukoni et sont éparpillés dans différentes maisons de détention. Leur famille indique qu'ils sont en prison en dehors d'aucune loi et font savoir qu'ils ne sont même pas concernés par la grâce présidentielle et d'autres avantages parce que le procès n'a pas encore acquis la force de la chose jugée. Depuis les appels en pourvoi de cassation, ils n'ont pas été informés de l'évolution de leur dossier. Les familles de ces détenus demandent à la Cour suprême et au ministère de la Justice de les informer du sort réservé à leur dossier pour qu'ils puissent être en prison en conformité avec la loi. Les familles disent qu'ils n'ont pas été satisfaits du jugement rendu par la Cour d'appel de Ngozi, car cette Cour s'est inspirée du jugement du tribunal de grande instance de Muyinga qui a été dicté par des aveux obtenus après torture des présumés. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version de la Cour suprême relative à ce dossier.
Merci Jean-Marie Ndabashinze. Ce dossier des présumés auteurs de l'attaque du camp militaire de Mukoni en province Muyinga qui a été jugé dans les premières juridictions sur base des aveux obtenus après torture. C'est le constat de Maître Jean-Jean Guilmana. Il demande à cette Cour suprême de prêcher par exemple et se prononcer sur le pourvoi en cassation. Je vous propose de l'écouter.
Le dossier des militaires qui ont été arrêtés à partir du camp de Mukoni en province de Muyinga a été jonché de plusieurs irrégularités, tant de fond que de forme. On se souvient malheureusement qu'ils ont été gravement torturés et que malgré les épreuves qu'ils avaient endurées, la justice burundaise continue à les maintenir en détention de manière arbitraire, ce qui est synonyme des traitements inhumains ou dégradants. Ayant saisi la Cour suprême à travers un pouvoir en cassation qui a été formulé depuis février 2018, ces militaires ont été privés de tout accès au juge que la loi leur assigne et ne parviennent même plus à accéder à leur dossier. Il importe de rappeler qu'une justice si anormalement retardée est synonyme de déni de justice. La Cour suprême donc devrait faire tout ce qui est possible pour que ce dossier soit vidé le plus rapidement possible. Cette haute juridiction du pays a entre autres missions la bonne administration de la justice ainsi que le contrôle administratif et des autres juridictions. C'est pour cette raison qu'elle devrait prêcher par un bon exemple en jugeant correctement son dossier, mais aussi en constatant que les aveux qui ont été faits par ces militaires ont été décrochés à la suite des tortures graves qu'ils ont subies. Dans le cas d'espèce donc, on demande essentiellement à la Cour suprême de pouvoir libérer ces militaires à travers un jugement qui constaterait qu'ils ont été torturés et que son délai anormalement long d'emprisonnement, c'est un emprisonnement arbitraire parce que la justice a été mal dite. Il faudrait que la Cour suprême donc corrige toutes les erreurs qui ont été constatées dans son dossier tout en condamnant tous ceux qui ont été impliqués directement ou indirectement aux actes de torture qui ont visé ces militaires.
Inzamba. Dans cette édition également, le mouvement Retavara appelle le gouvernement burundais à organiser un dialogue inclusif pour que les élections législatives de 2025 et les élections présidentielles de 2027 soient des élections crédibles et rassurantes pour tous. Ce mouvement réagit ainsi aux derniers propos du président Evariste Ndayishimiye qui demandait à ce mouvement de déposer les armes et de participer librement à ces élections s'il veut accéder au pouvoir. Le point avec Trifine Kaniwawo.
C'était le 28 avril de cette année lors d'une prière des militants du parti CNDD-FDD quand le président Evariste Ndayishimiye avait dit que le mouvement Retavara n'avait aucune raison de chercher à prendre le pouvoir par la voie des armes. Il avait tout simplement appelé ce mouvement à venir participer aux élections prochaines, précisant que les portes lui étaient grandement ouvertes.
Vous avez vu le communiqué du mouvement Retavara. Ils veulent diriger le pays, ils veulent le pouvoir. Mais les portes sont ouvertes. Ils viennent le prendre à travers les élections. En 2035, il y aura des élections législatives qui viennent se faire élire. En 2027, qu'ils viennent aussi participer aux élections présidentielles. Personne ne les en empêche s'ils veulent prendre le pouvoir. Ça ne sert à rien de prendre les armes si les portes sont ouvertes à n'importe qui veut prendre le pouvoir. Après tout, c'est au peuple de décider de celui qui est capable de diriger et de satisfaire à ses besoins.
La réponse du mouvement Retavara ne s'est pas beaucoup fait attendre. Dans ce communiqué, sorti ce mardi 3 mai, il demande au pouvoir Ndayishimiye d'organiser un dialogue franc et inclusif pour discuter des conditions favorables et rassurantes pour la tenue de ces élections crédibles. Justine Nwaali, porte-parole de ce mouvement.
Les préalables pour que de telles élections soient possibles sont nombreuses et c'est cela qui doit faire l'objet de négociations. Les conditions pour des élections crédibles en 2025 et 2027 ne sont pas du tout réunies. L'environnement sécuritaire et politique, l'absence d'espace démocratique pour les partis politiques, les médias et la société civile, les incessantes violations des droits de l'homme, l'absence d'une véritable justice, etc. Tout cela ne permet pas d'envisager des élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes.
Le mouvement Retavara soutient l'idée qu'en matière d'élection, c'est seul le peuple qui est l'arbitre, mais qu'il faut absolument éviter que les élections soient des mascarades électorales.
Le monde entier a célébré le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Même si le Burundi avait manifesté sa volonté d'améliorer le paysage médiatique de la région des Grands Lacs avant 2015, la situation a changé avec le troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. C'est ce que fait remarquer le rapport de Reporters sans frontières, un rapport fait à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Le rapport indique également aussi que même après l'élection d'Evariste Ndayishimiye à la tête de l'État, la situation ne s'est pas améliorée pour autant, même s'il avait promis de normaliser les relations entre les pouvoirs publics et les médias. Le point avec Vanessa Mohiteka.
Selon le rapport, le Burundi qui était réputé dans la région des Grands Lacs, dans le paysage médiatique, a basculé en 2015 avec le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Les radios indépendantes ont été détruites. une centaine de journalistes contraints à s'exiler. L'espoir qui était revenu avec l'élection de Walid Sindaye Chinier en 2020, mais sa promesse de normaliser la situation n'a pas été honorée jusqu'à ce jour. Le parti au pouvoir se montre intolérant à toute voix discordante. L'espace médiatique est muselé tellement que les journalistes ne peuvent pas faire ce que le pouvoir ne veut pas. Le Conseil national de la communication ne joue pas son rôle étant donné que ses membres sont désignés par le pouvoir. Reporters sans frontières donne des exemples qui corroborent que la situation n'a pas changé après l'élection de 2020 qui a porté au pouvoir Evariste Ndayishimiye. En effet, 4 journalistes du journal Iwachu ont été emprisonnés fin 2020. Ils ont passé plus d'une année en prison alors qu'ils exerçaient leur métier en bonne et due forme. En plus, le pouvoir signe des DFDD pour la création d'une part aussi des journalistes qui optent pour la résignation et l'autocensure. Le discours du président Evariste Ndayishimiye en 2021 a empiré la situation. Il s'en est pris publiquement à des journalistes exerçant à l'étranger et les a accusés de détruire le pays, indique toujours le rapport. Dans ce classement, le Burundi occupe la 107e place. Il est le 10e dans la sous-région derrière le Kenya, qui est classé 69e.
Merci Vanessa Moïteka. La situation des médias au Burundi n'a pas changé depuis 2015. Les journalistes n'ont plus le droit de traiter des sujets en rapport avec la violation des droits humains, le détournement des biens publics et bien d'autres sujets sensibles. C'est ce que déplore Innocent Mohodi, président de l'Observatoire de la presse au Burundi. Il s'inquiète aussi du classement de Reporters sans frontières qui met le Burundi en deuxième position après le Kenya dans la région de l'ERC, alors que pas mal de signaux montrent la volonté du régime de museler la presse. Innocent Mohodi.
Malgré la réautorisation de Bonnechet et de Sanganiro sous contrôle, sous contrainte, il y a plus de 100 journalistes qui sont partis en exil, 7 responsables de ces médias indépendants qui ont été condamnés à des peines de prison à la perpétuité de manière totalement fantaisiste, et qu'il y a des collègues qui ont été tués, Christophe Ngezabahizi et toute sa famille, sa femme et 3 enfants, notre collègue Jean Bigirimana qui est porté disparu, aux dernières nouvelles ce sont les services de renseignement qui l'ont enlevé, tous ces crimes, tous ces actes dans toute impunité. Donc nous appelons le gouvernement burundais à revenir à la raison, en remettant à l'ordre du jour l'accord de paix et de sécurité d'Arusha et de la loi sur la paix qui en découlait, qui permettait que les citoyens s'expriment, que ce soit les organisations politiques, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les citoyens ordinaires et les médias, ainsi que les médias tapés lesquels ils s'exprimaient, que cette loi-là, qui de 2013, qui sortait de l'accord d'Arusha, soit rétablie et que les gens soient rétablis dans leurs droits. Si je pouvais dire quelque chose sur le classement fait par Reporters sans frontières dans la sous-région qui classe le Burundi en deuxième position derrière le Kenya, je crois que c'est totalement fantaisiste. C'est totalement fantaisiste. Ce classement de Reporters sans frontières est incompréhensible. Soit ils ne connaissent plus rien à ce qui se passe dans notre pays, soit il y a d'autres raisons. Ne comprenons absolument pas ce type de classement totalement fantaisiste. Quand tout le monde sait ce qui se passe au Burundi, sur le terrain des médias, il y a une multiplication des médias, il y a une multiplication des radios, des télévisions, mais il n'y a pas de liberté puisqu'il y a des questions sur lesquelles les gens ne peuvent plus toucher sans risque de se faire réprimer. Nous avons été témoins récemment encore de la conférence de presse des organisations de la société civile agréée exerçant au Burundi, qui a été brutalement interrompu par la police, qui s'est introduit dans la salle pour dire « vous n'avez pas le droit de communiquer ». Donc c'est des choses qui sont gravissimes, mais que bon, si certains décident de prendre cela à la légère, c'est leur droit, c'est leur problème, mais nous pensons que ces choses sont suffisamment graves pour les prendre avec le sérieux et la gravité nécessaire.
Innocent Mohodi, c'est le président de l'Observatoire de la presse au Burundi et c'est par sa voix que nous mettons un terme à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.